on a la chance, au fond, que le monde de demain sera différent. Alors, ou on le subit, ou on le dirige.
Nous allons pouvoir changer le monde. Mais avant de changer le monde, il faut tourner la page.
Le monde d'après a lieu maintenant.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. La France pourrait-elle basculer dans le populisme? Allons-nous nous retrouver avant la fin des années 2020 dans une post-démocratie illibérale comparable au régime de Viktor Orban en Hongrie ou à la Turquie d'Erdogan? Ce midi, on tente d'y voir plus clair avec la philosophe Bérénice Levé et l'historien et éditorialiste Nicolas Bavré.
France Inter. Le monde d'après l'été. Christophe Bourseiller.
Depuis le temps qu'on en parle, et si c'était la bonne, se peut-il qu'une ou un candidat populiste soit élu à l'élection présidentielle de 2022, voire à celle de 2027? De crise en crise, la France devient-elle mûre pour une dictature? La soif de l'ordre peut-elle l'emporter sur les valeurs démocratiques? Bérénice Levé, vous êtes philosophe, et je dirais une philosophe engagée. Vous avez beaucoup travaillé sur Hannah Arendt, mais on vous doit aussi des livres polémiques tels que Le crépuscule des idoles progressistes ou encore Libérons-nous du féminisme. Bérénice Levé, bonjour.
Bonjour.
Nicolas Bavré, vous êtes normalien, énarque, docteur en histoire et diplômé en sciences sociales, mais vous êtes surtout à votre façon un lanceur d'alerte. Vous avez écrit de nombreux ouvrages, parmi lesquels je citerai Les Trente Piteuses, La France qui tombe ou Nouveau Monde, Vieille France. Et en 2020, juste avant le confinement, vous avez publié deux livres, Le Monde selon Tocqueville et surtout L'Alerte démocratique qui porte justement sur le populisme. Bonjour Nicolas Bavré.
Bonjour.
Un philosophe, une philosophe plutôt, et un historien, il fallait au moins ça pour essayer de comprendre où on va. Le populisme passera-t-il? Réponse, je l'espère, dans cette émission.
Michel,
les gens,
l'heure de pointe,
les gens.
Une très jolie découverte de 2020, en tout cas pour moi, c'était Cyril. Cyril, il a deux prénoms, les gens, le voisin, l'étranger, le passant, l'enfer c'est les autres, écrivait Jean-Paul Sartre, n'est-ce pas la crainte des gens qui nourrit le populisme ?
France Inter.
Marine Le Pen a pris tout le monde de court en mettant le pied sur l'île de Sein la veille du 18 juin.
Je souhaitais venir dans un climat d'apaisement.
Ambiance très particulière, ils ne sont que 5 ou 6 membres du Rassemblement National aux côtés de Marine Le Pen quand elle dépose une gerbe devant le monument des forces navales françaises libres inauguré par De Gaulle en 1960.
Tous ceux qui se disent les héritiers du général De Gaulle ont été au pouvoir et ils ont tous en réalité effondré ces grands principes d'indépendance, de souveraineté du peuple. Et moi je souhaite que ces grands principes soient à nouveau à l'œuvre.
Le monde d'après l'été.
C'est une honte, Madame Le Pen.
C'est tout simplement de la malhonnêteté. Quand on a un passé, on l'assume. Et là, bah, c'est pas assumé du tout. Et non seulement c'est pas assumé, c'est essayer de récupérer des choses qui sont pas eux.
Christophe Bourseiller.
Poursuivant son entreprise de dédiabolisation, Marine Le Pen est allée lancer son appel du 18 juin, le 17 juin sur l'île de Sein. Plus tard, le 16 juillet, elle a commémoré l'anniversaire de la rafle du Vélodrome d'hiver en dénonçant, je la cite, l'expression la plus abjecte et abominable de l'antisémitisme. Alors il y a, on sent de la part de Marine Le Pen le désir de se dédiaboliser. Ça fait un peu longtemps que ça dure, ça fait longtemps qu'elle essaie de se dédiaboliser. Bérénice Levé, elle est sincère selon vous, Marine Le Pen, quand elle tente de se dédiaboliser ?
Je ne sais pas si la question est de savoir si elle est sincère. Je pense qu'en revanche, elle a compris certaines des aspirations du peuple français aujourd'hui auxquelles elle répond. Et je n'ai pas envie justement de la diaboliser dans cette tentative de répondre, de répliquer à ses attentes. Après, je ne suis pas convaincue qu'il suffise de remuer quelques idées telles que la souveraineté ou l'indépendance pour proposer une réponse qui soit à la hauteur. Mais en revanche, elle est un bon indicateur des aspirations populaires aujourd'hui.
Mais Marine Le Pen gaulliste, c'est pas un petit peu exagéré, Nicolas Bavré ou Bérénice Levé ?
C'est une opération de triangulation classique, comme on en fait en politique. C'est vrai que si elle veut arriver au pouvoir, comme vous l'avez rappelé, le passage obligé pour Marine Le Pen, c'est d'arriver à ce que le Rassemblement National soit un parti comme les autres. Or, on voit que pour l'instant, ça n'est pas le cas. On l'a encore vu lors des dernières élections municipales. Donc, le fait de vouloir se réclamer, comme j'allais dire aujourd'hui, pratiquement toutes les forces politiques françaises du général de Gaulle, c'est une manière d'essayer de progresser sur cette conquête du
pouvoir. C'est pas maladroit de quand on connaît les origines politiques.
Alors, ensuite,
du Rassemblement
la
national.
La question que vous posez, c'est est-ce que c'est crédible oui. ou pas à mon sens, c'est vrai que compte tenu du nom que porte Marine Le Pen, de l'histoire familiale, de l'histoire de l'extrême droite, notamment autour de la guerre d'Algérie, c'est très paradoxal et je pense que ça aura de la peine à être cru. Mais j'allais dire, c'est un jalon dans une trajectoire politique. Et si on veut, là encore, quand même quitter cet événement pour reprendre la vraie trame, il est clair qu'aujourd'hui, d'abord, donc Jean-Marie Le Pen puis Marine Le Pen sont arrivés au deuxième tour de l'élection présidentielle, déjà. Donc là encore, quand on dit est-ce que ça peut arriver, en réalité...
C'est déjà arrivé.
Ils n'ont pas été élus, mais notamment dans les deux cas, c'était pas forcément attendu. Donc une fois qu'on est au deuxième tour, on peut être élu. Et par ailleurs, ce qu'il faut quand même voir, c'est que je pense que les réponses qui sont apportées sont pas les bonnes, mais que incontestablement, on est dans une période qui est une période qui est favorable au populisme, parce que les grandes forces qui sont aujourd'hui à l'œuvre, c'est la déstabilisation des classes moyennes. On est maintenant devant une crise économique terrible. La France n'a jamais vu son PIB baisser de 12%. Ça fait 4 340 euros en moins pour chaque Français, même si aujourd'hui c'est un peu masqué. On a un chômage chômage qui va beaucoup augmenter, des inégalités qui sont lourdes et des problèmes sérieux d'insécurité et de positionnement de la France vis-à-vis de ses partenaires européens et dans le monde. Donc ça, incontestablement, sur fond de crise des classes moyennes, d'effondrement des revenus, de crise de l'emploi, on sait que c'est favorable notamment à l'extrême droite. Et ça nous renvoie d'ailleurs, juste un mot en matière d'histoire, hein, les grandes périodes de... Alors, on n'avait pas eu les épidémies, mais les grandes périodes de crise économique et notamment les grandes périodes de déflation sont favorables au populisme. On avait eu le boulangisme à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, dans les années 30, alors on peut discuter de l'existence ou non d'un fascisme à la française, mais en tout cas, on a eu les ligues qui étaient sans doute... En fait, les ligues sont plus proches d'un mouvement populiste que d'un mouvement véritablement totalitaire.
Alors, Bérénice Levé, vous vouliez réagir.
Oui, parce que ce qui m'ennuie malgré tout, c'est que l'on continue à étiqueter le Front National de parti d'extrême droite. Et justement, si on se réfère à l'histoire, il est quand même difficile de qualifier en ces termes ce que représente le Rassemblement National aujourd'hui. Donc, j'ai le sentiment que justement, vu l'ampleur des questions qui se posent à nous, et dont le mouvement des Gilets jaunes a été l'expression, il est quand même dommage de... s'attacher justement, de contourner les vraies questions en se contentant de...
Oui, mais est-ce que c'est pas l'échec de Marine Le Pen, ça, d'une certaine façon? C'est-à-dire que depuis qu'elle est au pouvoir, oui, qu'elle a changé le nom du Front National en Rassemblement National, elle tente de se dédiaboliser, enfin, elle le dit à qui veut l'entendre, et malgré tout, on voit bien qu'il y a un cordon sanitaire, un plafond de verre, elle n'arrive absolument pas à bouger. Est-ce que ça vous a pas frappé de voir Robert Ménard, par exemple, qui a été élu à Béziers grâce à elle, grâce au Rassemblement National, qui aujourd'hui dit il la quitte, il a dit qu'il la quittait parce que elle ne serait jamais élue, et même il est allé encore plus loin en disant, je crois en substance, que Marine Le Pen au second tour c'était la garantie pour Macron d'être réélu.
Bien sûr, non, mais ça je suis d'accord, donc je ne dis absolument pas qu'elle est une réponse politique, mais parce que précisément son intelligence des choses est quand même trop faible, et donc les réponses sont des... nous sommes dans des généralités, mais de tous les côtés. Donc ce que je pense qu'en revanche, ce que vous appelez le plafond de verre, il est quand même créé aussi par les médias, par les journalistes, et précisément par cet étiquetage d'extrême droite. Mais ce que
mais enfin,
je reproche,
il y a une vraie origine d'extrême droite
ce que je regrette davantage, c'est qu'il n'y ait pas une traduction politique plus solide, plus consistante, parce qu'il est évident que lorsqu'elle se réfère au général de Gaulle, c'est juste un nom que l'on remue.
Un gimmick.
Mais oui, il n'y a aucun contenu ou trop pauvre.
Mais alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a d'autres champions aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on met toujours en avant Marine Le Pen, bien sûr, qui est la présidente du Rassemblement National, mais alors, il y a dans son camp une dissidence, on pourrait dire d'une certaine façon, qui est Marion Maréchal, Nicolas Bavret, cette école à Lyon, cette stratégie entre guillemets plus ou moins un peu sinueuse de Marion Maréchal. Est-ce qu'elle vous semble porteuse d'une dynamique populiste qui pourrait l'amener au pouvoir ou pas?
Si vous voulez, d'abord, c'est quand même bel et bien par les thèmes qui sont portés, incontestablement, un parti qui se situe à l'extrême droite. Quand on regarde le côté autoritaire, la distance vis-à-vis de l'état de droit, la critique de la mondialisation, la critique du libéralisme, la critique de l'économie de marché, après avoir un peu... Et donc, Marion Maréchal-Le Pen, elle a une équation qui est un peu différente, qui électoralement, d'ailleurs, est très proche, par exemple, de quelqu'un comme Trump, c'est-à-dire qu'on a d'un côté... le nationalisme, mais elle a une vision plutôt libérale de l'économie et elle est très conservatrice sur les valeurs. Il faut être clair, c'est une offre électorale dont je suis le premier à dire qu'elle peut être extrêmement efficace. On peut critiquer, mais elle est extrêmement efficace.
Plus efficace que Marine Le Pen, selon vous ?
Ce qui est vrai, c'est que ce qu'on voit aussi avec Marine Le Pen, c'est qu'elle a le, enfin, elle a hérité de son père de ce parti et de ce positionnement, et c'est à la fois sa chance et sa malédiction. Ce qu'on a, on a évoqué tout à l'heure avec le général de Gaulle, puisque pour le coup, il ne fait pas de doute que Jean-Marie Le Pen était un adversaire extrêmement, extrêmement décidé, déterminé du général de Gaulle, d'une certaine manière très proche de l'OAS, donc y compris avec des tentatives de...
Et le Front National, à l'origine, était le fait d'anciens collaborateurs.
Oui, donc, mais il faut être juste, aujourd'hui... mais vous voyez, ces difficultés, on les voit, puisque même... Prenez quelqu'un comme Louis Alliot, qui a donc été élu à Perpignan, il n'a pas été élu sous l'étiquette RN, comme vous l'avez vu. Et il y a une dernière chose à dire pour la France, qui est quand même importante, c'est que quand on pense au populisme, on va directement à Marine Le Pen et au Rassemblement National. Mais il ne faut jamais oublier qu'il y a du populisme aussi à l'extrême gauche.
Ah, mais j'allais vous en parler.
Ces mouvements,
il y a la question de Jean-Luc Mélenchon.
Ces mouvements populistes sont extrêmement plastiques. Et donc, on a incontestablement un populisme également du côté des, effectivement, de la France insoumise et d'un espèce de bloc d'extrême gauche qui d'ailleurs lui aussi est assez prompt à basculer dans la violence. Et je crois que ce qui est intéressant avec les Gilets jaunes, c'est que les Gilets jaunes ont fait la fusion sociologique de ces deux formes de populisme en France, en assurant finalement un certain continuum. Et ce qui fait que c'est là où les choses peuvent changer aussi d'un point de vue électoral. C'est qu'aujourd'hui, ce qui était plus compliqué, mais je pense que la fluidité entre l'électorat d'extrême gauche et d'extrême droite est beaucoup plus importante.
Alors, si on balaye justement, si on balaye le spectre, il y a aujourd'hui un homme nouveau qui vient d'apparaître dans un peu cette galaxie qu'on pourrait appeler populiste. C'est Michel Onfray qui a lancé une espèce de réseau qui s'appelle le Front Populaire avec sa revue, etc. Alors, Michel Onfray, c'est intéressant parce qu'il ne vient pas de la droite et son discours souverainiste pourrait-il séduire Bérénice Levé?
Oui, mais et pour cause, parce que moi, c'est exactement la ligne qui est la mienne. Le souverainisme, depuis 1992, mon premier vote, la première fois que j'étais en âge de voter, était contre Maastricht. Donc, évidemment, j'ai appartenu au mouvement de Jean-Pierre Chevènement. Donc, si vous voulez, moi, c'est la ligne qui est la mienne. Donc, c'est pourquoi j'ai quand même du mal à entendre dire que contester le primat de l'économie, être soucieux de l'insécurité culturelle, hein, et pas simplement économique, soit fatalement des thèmes d'extrême droite. Je crois au contraire, et c'est toute notre douleur, que la gauche, ayant abandonné ces questions-là, s'est perdue et ne répond pas, d'où le fait que le peuple s'oriente davantage vers Marine Le Pen, qui prend en charge l'insécurité économique et l'insécurité culturelle, ce que Jean-Luc Mélenchon ne fait pas. Mais donc, si vous voulez, c'est quand même très embêtant de voir ces thèmes être apparentés simplement à même la contestation.
Alors on est un peu au-delà dans notre débat, parce que nous réfléchissons à un populisme qui est un peu sans étiquette.
Non, mais la contestation du primat de l'économie, c'est pas du tout un thème d'extrême droite. C'est un thème libéral. Tous les grands libéraux, que ce soit Montesquieu, que ce soit Constant, Tocqueville, Aron, Revel, évidemment, c'est la politique qui prime l'économie. Donc,
ils sont les premiers.
Donc, si vous voulez, je ne pense pas du tout que ce soit effectivement le primat de l'économie ou la contestation du primat de l'économie qui fonde l'extrême droite.
J'aimerais qu'on avance un peu et qu'on parte un peu à l'étranger. J'aimerais vous faire entendre un son qui m'a beaucoup frappé.
Des agents de police fédérale dans les rues de Portland pour réprimer les manifestations antiracistes. Le président Donald Trump s'est félicité de cette opération contestée. Chuck Schumer, le chef des sénateurs démocrates au Congrès, dénonce des actes méprisables.
C'est digne d'un pays autoritaire. Des agents qui procèdent à des arrestations sans numéro d'identification. C'est vraiment typique de Trump. Il n'arrive pas à gérer la crise du Covid-19. Le pays tout entier se rend compte que sa présidence est un échec abject, alors il essaye de faire diversion.
Aux États-Unis, les villes sont légalement compétentes pour gérer elles-mêmes les actes de criminalité. Mais face à la flambée de violence, Donald Trump menace d'envoyer des policiers fédéraux dans plusieurs autres grandes localités gouvernées par des démocrates. Donald Trump mise sur le maintien de l'ordre pour redorer son image à moins de 4 mois de l'élection présidentielle.
Alors on pourrait dire, et bien sûr qu'en France, le populisme n'est pas au pouvoir, ce qui fait que, bien sûr, on parle de candidats possibles ou de champions putatifs, mais aux États-Unis, il y a Donald Trump, et alors il y a eu un article du New York Times qui dénonçait la présence d'escouades paramilitaires d'agents fédéraux qui interviennent brutalement dans les manifestations sur ordre du président Trump. Nicolas Bavret, c'est un premier pas vers le fascisme, ça ?
Non, alors il y a plusieurs choses à dire. D'abord, ce qui est intéressant, c'est que dans les pays qui ont spectaculairement échoué à faire face à l'épidémie, on trouve les pays dirigés par des dirigeants populistes. Trump, c'est une catastrophe sanitaire et sur le plan économique, ça se passe très mal. Boris Johnson, même chose. Et Bolsonaro au Brésil, on est quand même à 80 000 morts, ce qui est extravagant et rien ne justifie qu'il y ait autant de morts au Brésil quand on regarde la structure démographique. Il y a une bonne industrie de santé et donc on voit que ces dirigeants populistes ont complètement failli. Ce qui est effectivement le risque du populisme, c'est que la sortie, c'est pas du tout d'admettre l'échec, c'est la fuite en avant. Donc Johnson, c'est la fuite en avant dans le Brexit. Bolsonaro, c'est la fuite en avant dans des menaces, pour le coup, de coup d'État militaire, puisqu'on a quand même maintenant 9 généraux sur 22 membres du cabinet au Brésil. Et je crois que sur Trump, mais c'est ça qui est intéressant, c'est que sur Trump, je ne crois pas tellement aux paramilitaires, mais Trump, effectivement, a menacé de recourir à l'Insurrection Act de 1807 qui permet d'envoyer l'armée. Mais ce qui est intéressant, et là où on a quand même un contre pouvoir qui fonctionne encore aux États-Unis, et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il soit pour l'instant menacé de fascisme, c'est qu'on a eu fait sans précédent tout l'establishment militaire, que ce soit les anciens chefs d'état-major ou l'actuel chef d'état-major des armées et même le secrétaire à la défense, qui ont expliqué qu'il n'était pas question d'envoyer l'armée pour rétablir l'ordre, ce qui avait été fait lors des émeutes qui ont suivi l'assassinat de Martin Luther King à la fin des années 60. Donc, il y a une tentation chez Trump, il ne fait pas de doute que devant son échec sanitaire et économique, il essaye de se poser en dirigeant de la loi et de l'ordre, mais je ne crois pas du tout, ni au groupe paramilitaire, ni au fait que l'armée soit mobilisée aujourd'hui pour reprendre le contrôle des grandes villes des États-Unis.
Mourir pour des idées, l'idée est excellente. Moi, j'ai failli mourir de ne l'avoir pas eu, car tous ceux qui l'avaient, multitude accablante, en hurlant à la mort, me sont tombés dessus. Ils ont su me convaincre et ma muse insolente, abjurant ses erreurs, se rallie à leur foi. Avec un soupçon de réserve toutefois, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Jugeant qu'il n'y a pas péril en la demeure, allons vers l'autre monde en flânant en chemin. Car à forcer l'allure, il arrive qu'on meure pour des idées n'ayant plus cours le lendemain. Or, s'il est une chose amère, désolante, en rendant l'âme à Dieu, c'est bien de constater qu'on a fait fausse route, qu'on s'est trompé d'idées. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Les saints Jean bouche d'or qui prêchent le martyre, le plus souvent d'ailleurs s'attardent ici-bas. Mourir pour des idées, c'est le cas de le dire, c'est leur raison de vivre, ils ne s'en privent pas. Dans presque tous les camps, on en voit qui supplantent bientôt Mathusalem dans la longévité. J'en conclus qu'ils doivent se dire en aparté, mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. des idées réclamant le fameux sacrifice. Les sectes de tout poil en offrent des séquelles. Et la question se pose aux victimes novices. Mourir pour des idées, c'est bien beau, mais lesquelles? Et comme toutes sont entre elles ressemblantes, quand ils les voient venir avec leur gros drapeau, le sage, en hésitant, tourne autour du tombeau. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Encore s'il suffisait de quelques hécatombes pour qu'enfin tout changeât, qu'enfin tout s'arrangeât. Depuis tant de grands soirs que tant de têtes tombent, au paradis sur terre on y serait déjà. Mais l'âge dort sans cesse et remis aux calendes. Les dieux ont toujours soif, n'en ont jamais assez. Et c'est la mort, toujours recommencer. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente. Ô vous les boutefeux, ô vous les bons apôtres, mourez donc les premiers, nous vous cédons le pas. Mais de grâce, morbleu, laissez vivre les autres, la vie est à peu près leur seul luxe ici-bas. Car enfin la Camarde est assez vigilante, elle n'a pas besoin qu'on lui tienne la faux. Plus de danse macabre autour des échafauds. Mourons pour des idées, d'accord, mais de mort lente, d'accord, mais de mort lente.
Morbleu, j'aime bien cette expression qui a un peu disparu. Mourir pour des idées, oui, mais de mort lente, chantait Georges Brassens en 1972. Alors ça dépend si les idées sont justes, remarquez, et ce n'est pas toujours le cas.
Le monde d'après l'été.
J'ai toujours dit du peuple qu'il était ceux sur lesquels le pouvoir s'exerce. Je pense effectivement qu'il y a des gens dont la vie est constituée d'une espèce de vallée de larmes qui consiste à ne pas gagner grand-chose, à qui on ne donne ni dignité, ni existence, à qui on dit « vous allez pouvoir voter de temps en temps, mais il va falloir bien voter ». Ça, ce sont ceux dont je dis que le pouvoir s'exerce sur eux et qu'ils ne l'exercent pas.
Il est temps de libérer le peuple français d'élites arrogantes qui veulent lui dicter sa conduite, car oui, je suis la candidate du peuple.
Christophe Bourseiller.
Nous affirmons conformément à la leçon de nos anciens, il n'y a pas de pouvoir supérieur à celui du peuple. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en aura jamais à nos yeux.
Sur France Inter.
Le peuple, le peuple, le peuple. On vient d'entendre Michel Onfray, puis Marine Le Pen, puis Jean-Luc Mélenchon. Alors, moi, il y a une question que je voudrais vous poser, Bérénice Levé, vous êtes philosophe. La démocratie, nous sommes dans un régime démocratique, c'est étymologiquement le pouvoir du peuple. Comment expliquer que le peuple se sente justement exclu du pouvoir ?
Alors, c'est le pouvoir du peuple, c'est surtout des élus, des dirigeants qui doivent s'autoriser du peuple, qui doivent avoir et prendre des décisions au nom justement...
Ils sont élus par le peuple.
Oui, ils sont élus par le peuple, mais ils doivent toujours garder une attention, tendre l'oreille aux aspirations du peuple. Et il me semble que depuis des décennies, il y a un modèle de société qui s'est imposé sans que... Pour moi, alors c'est une chose un peu sur laquelle je me suis penchée, parce qu'il me semble qu'il y a une énorme différence avec les années 50, 60, où la France va connaître de très grandes mutations. Mais précisément, avec la complaisance ou la complicité populaire, c'est-à-dire que toutes les transformations auxquelles on vont donner lieu justement ces années-là sont acceptées, alors que depuis quelques années, ce sont des décisions qui semblent venir de l'extérieur et s'imposer justement aux populations malgré elles. Et effectivement, les aspirations qui sont les siennes sont conspuées par ce que l'on appelle l'élite pour marquer justement ce fossé qui s'est creusé entre un peuple français qui aspire à donner une continuité à la nation qui est la leur, et des élites qui sont plus empressées de mettre à l'heure d'une civilisation mondiale la France. Et c'était assez clair dans le programme d'Emmanuel Macron, puisque son programme était d'adapter la France au monde. Donc il avait l'intention de parachever...
C'est ça le populisme, c'est ce que dit Bérénice Levé, c'est-à-dire au fond la manifestation d'un abîme entre le peuple et ses représentants.
En tout cas, c'est la revendication par un certain nombre de leaders ou de forces de représenter, on l'a très bien entendu, de représenter eux, le peuple. Or, c'est là qu'il y a une énorme difficulté, parce que c'est la question que vous posez, qu'est-ce que c'est que la démocratie ? La démocratie, c'est bien sûr le suffrage universel, mais en fait, c'est un régime qui est très complexe, parce qu'il y a des valeurs, la liberté, l'égalité, la fraternité chez nous, il y a des institutions, le suffrage universel, mais il y a aussi le respect de l'état de droit, et on voit que généralement, ces mouvements populistes sont prompts à s'en affranchir. Et puis, il y a un principe qui nous ramène à la chanson de Georges Brassens, c'est un principe de modération et de tolérance. Le fait que la minorité accepte qu'il y ait une majorité qui prenne des décisions et que la majorité n'opprime pas la minorité. Et c'est tout ceci, en réalité, c'est pour ça que ces forces ne sont pas démocratiques, c'est qu'elles récusent l'état de droit, elles ne respectent pas la liberté, ou elles expliquent que la liberté, c'est quelque chose de beaucoup trop bien pour que les autres en bénéficient. Et on voit que on réclame l'autoritarisme, alors les uns pour l'égalité, contre les inégalités, les autres pour la sécurité.
Ce que dit Bérénice Levé, c'est pas tout à fait ça. Elle dit que le populisme répond à l'élitisme, en fait, d'une caste technocratique, si j'ai bien compris votre propos, qui pratiquerait l'entre-soi.
Alors, il y a toujours un risque dans la démocratie qu'elle tourne à l'oligarchie. Et c'est vrai que ce risque, il est assez fort en France, parce que on a ce poids de l'État, et le fait que ça s'ouvre un peu, mais on avait à peu près les mêmes gens dans la politique, dans l'économie, dans les médias, et dans la culture, et évidemment ça finit par faire beaucoup. Donc normalement, pour que la démocratie fonctionne, dans tout régime il y a des élites, mais c'est des élites qui sont plurielles, différentes et remises en question. Donc si ces élites se ferment, et c'est ce qu'on a vu assez régulièrement dans l'histoire, de toute façon, dans les démocraties où les élites s'enferment, généralement, ça se termine mal. Il y a un exemple tragique qui a été décrit par Marc Bloch très bien dans L'étrange défaite, c'est la Troisième République, où le système s'est complètement refermé, et ça s'est terminé par la catastrophe de juin 40.
Et finalement, ça nous pose la question aujourd'hui, où allons-nous, hein, est-ce qu'on va vers un moment populiste en France ou en Europe. Nicolas Bavrette, dans votre livre « L'alerte démocratique », qui est un livre très complet, très intéressant sur ce thème, vous écrivez « Le véritable danger n'est pas une sixième république, mais une cinquième république utilisée pour conduire une révolution chaviste, ou plus probablement, créer une démocratie illibérale à la manière de Viktor Orban ».
Oui, si vous voulez, la Ve République...
Une démocrature
Enfin, pour l'instant, il faut être clair, contrairement à ce qui est parfois dit, la Ve République telle qu'elle est aujourd'hui, ça n'est évidemment pas un régime totalitaire et ça n'est pas une démocrature. Il reste que dans le tableau des démocraties dans le monde, c'est quelque chose de très particulier, parce que c'est un régime qui a été inventé par le général de Gaulle, donc avec deux caractéristiques, comme pour réagir à l'instabilité de nos institutions depuis 89, il a fait le mélange de la monarchie, de l'empire et de la république, avec un régime qui est à la fois présidentiel et puis parlementaire. Et par ailleurs, dans l'exécutif, et l'organisation de l'exécutif, ce que beaucoup ne comprennent pas, c'est qu'il a rétabli un ordre militaire, c'est-à-dire que la stratégie est à l'Élysée, l'opératif est à Matignon et le tactique est dans les ministères. Quand on veut faire remonter le tactique et l'opératif à l'Élysée, ce que font beaucoup de ses successeurs, eh bien tout se bloque. Et il est vrai que c'est un régime qui est peu libéral. et pour le coup où la démocratie s'incarne beaucoup.
Mais par exemple, si vous prenez les exemples de la Turquie ou de la Hongrie, vous voyez bien qu'il s'agit de régimes démocratiques qui, décret après décret, évoluent vers des régimes autoritaires.
Exactement, pour la raison que je vous ai indiquée tout à l'heure, c'est que dans la démocratie, il y a aussi, par exemple, l'état de droit, il y a le fait de respecter l'opposition, il y a le fait de... Et que si vous videz tout ça... on se retrouve avec effectivement des régimes qui sont des démocratures où vous avez encore l'espèce de surface. Prenez par exemple la Russie de Poutine qui est le modèle. Il y a encore un suffrage universel mais qui est manipulé.
Et il y a des partis d'opposition.
Des partis d'opposition qui sont tolérés, pilotés, contrôlés par Poutine lui-même.
Et on pourrait dire aux États-Unis que Trump n'a pas touché à la liberté d'expression.
Ah, il a essayé. Regardez ce qui se passe sur. Regardez la manière dont il traite les journalistes. Hein. Il y a plusieurs.
Il les insulte, mais les journaux paraissent.
Il a voulu en exclure des briefings. Vous avez toute une série de procès qui ont été conduits devant la Cour suprême, qui pour l'instant d'ailleurs résiste en dépit des nominations. Mais que ce soit sur les attaques sur les réseaux sociaux, les attaques sur la liberté de la presse, il y a un vrai bras de fer aujourd'hui aux États-Unis.
Bérénice Levé, les régimes populistes nous mènent à la dictature. Selon vous,
je sais pas. C'est ce qui m'ennuie, si vous voulez, dans toute la discussion qui est la nôtre, c'est que qu'est-ce que l'on fait alors pour répondre aux questions auxquelles précisément ces politiques qui sont qualifiées de populistes répondent. Donc, on peut bien sûr, je ne conteste absolument pas que nous soyons toujours en régime démocratique, mais quand il y a une telle abstention dans les urnes, cela pose un problème. Les décisions qui sont prises, on ne peut pas dire qu'elles le soient soutenues activement. Les revendications qui étaient celles, aussi floues fussent-elles dans leur expression, des gilets jaunes, il faudra bien un moment ou un autre les prendre en charge. Parce que c'est là, en revanche, que l'on ouvre la voie à la violence la plus extrême. Parce que, finalement, on l'a vu, comment ce mouvement a terminé. Eh bien, en s'abandonnant aux forces les plus radicales. Alors qu'au départ, c'était un mouvement dont les aspirations étaient d'une extrême légitimité. Moi, ce qui me semble le plus caractéristique du moment que nous vivons, c'est que il n'y a aucune aspiration à une révolution. Il y a en revanche, un désir de redescendre sur terre, d'être rapatrié sur terre, dans le concret des choses, dans le concret des hommes, d'où la volonté de remettre à sa place l'économie. Hein, j'aime à citer ce vers de Saint John Peirce, mais et de l'homme, quand donc sera-t-il question ? Y aura-t-il quelqu'un pour élever la voix ? Donc, si vous voulez, c'est plus cela qui m'inquiète, et quant aux forces qui m'inquiètent beaucoup, c'est en revanche les forces telles celles des indigénistes, des décoloniaux qui
c'est un autre débat.
Qui organisent une vraie police là pour le coup de la pensée et de l'expression.
Mais oui, il y a de vrais problèmes. Ce qu'on dit souvent, c'est que les populistes répondent à de vrais problèmes par des réponses qui sont démagogiques ou simplistes. Est-ce que c'est le cas ?
Mais enfin, la réalité de la crise des classes moyennes, des problèmes de l'état de droit, du désengagement de la démocratie avec l'abstention ou des votes extrémistes, les difficultés de l'Europe ou la désintégration du système international, ça, c'est pas inventé par les populistes. Sont des réalités. Ce que je trouve intéressant, donc, mais la réponse populiste, ce qu'on voit avec, par exemple, Trump, c'est le meilleur cadeau qu'on ait fait à la Chine. Aujourd'hui, il a démantelé tout ce qui permettait, les alliances qui permettaient et les traités qui permettaient d'endiguer la Chine. Donc, on voit qu'il l'a dénoncé, mais qu'il n'a pas de stratégie à mettre en face. Et on a rappelé les catastrophes de Johnson.
Alors, comment répondre au populisme ?
Alors, justement, ce que je trouve intéressant, c'est de regarder l'histoire. On répond au populisme en réinventant la démocratie. C'est ce qu'on a fait à la fin du 19e siècle. Si vous regardez, c'est le moment où on a formalisé le contrat de travail, on fait émerger la grande entreprise.
Oui,
on
mais
a
ça, c'est pas un peu des belles paroles, franchement, non, réveillons la démocratie.
Regardez ce qu'on a fait en 1945. En 1945, on a réinventé un contrat économique, social, politique, autour des États-providence. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a pas de choses magiques, mais ce qui est vrai, c'est que il faut bouger très fortement ces démocraties, il faut trouver le moyen de réassocier les citoyens aux décisions publiques, et c'est possible en ouvrant un certain nombre de pistes, les référendums locaux.
Oui, mais alors vous voyez ce qui est intéressant, ce qui est assez intéressant par rapport à ce que vous dites tous les deux, c'est que par exemple on sait que mathématiquement, c'est ce que vous dites magistralement dans l'alerte démocratique, on sait qu'une Europe unie est plus puissante que des pays séparés face aux empires américains, russes et chinois. Et pourtant, les mouvements qui aujourd'hui prennent le pas partout en Europe sont des mouvements souverainistes, c'est-à-dire qui refusent cette Europe unie. Mais comment l'expliquez-vous ?
Parce que je pense qu'il y a une énorme ambiguïté sur le thème d'Europe unie. Dans un moment où le monde est en train de s'organiser autour de grands empires, la Chine évidemment, la Russie, le Brésil, les États-Unis, demain peut-être le Nigeria, c'est vrai que aucun des pays européens seuls ne peut vraiment peser. Donc il y a une logique à ce que l'Europe s'organise comme continent. Mais une autre chose est de dire qu'on doit supprimer les États-nations et que cette Europe doit s'occuper de tout et qu'elle doit être une Europe fédérale. C'est là qu'est l'énorme ambiguïté. Donc je crois qu'aujourd'hui, il y a où est-ce que l'Europe est pertinente ? Elle est pertinente pour discuter des risques planétaires. Voilà. C'est vrai que ça sert à rien d'aller faire de la lutte contre le réchauffement climatique pays par pays. C'est complètement absurde. Si vous prenez la France, c'est 1% des émissions mondiales. Donc si la France met en place le programme le plus remarquable pour lutter contre le réchauffement climatique, on n'aura en réalité aucun effet sur le système. Il y a des risques financiers, il y a des risques stratégiques sur le djihadisme, sur les démocrature, il y a évidemment des risques épidémiques, donc l'Europe, elle est pertinente pour faire ça. Elle est certainement pas pertinente pour aller dicter la vie des citoyens au quotidien, et donc c'est comme ça qu'on peut arriver à la faire fonctionner. Si vous voulez, c'est pour ça que l'Europe, bien conçue, peut être mise au service de la souveraineté des nations, mais on est bien d'accord, ce qui est souverain, c'est la nation, y compris en Europe, et ça le restera.
Et c'est bien là que nous avons pris un mauvais départ d'emblée. C'est que ce qui me frappe, c'est qu'en 1949, quand Albert Camus publie L'Enracinement de Simone Veil, il dit « Nous ne pourrons pas reconstruire l'Europe sans tenir compte de ce que contient ce livre. » Et ce qu'il contenait, c'était justement le besoin d'ancrage dans une histoire singulière, parce que par enracinement, Simone Veil n'entend pas simplement l'enracinement géographique, ce qu'il est, mais aussi l'enracinement
culturel,
temporel, le besoin de la continuité historique, d'être porté par une histoire, par un passé, c'est comme un encrier dans lequel nous trempons notre plume. Or, nous avons pris le chemin inverse parce que, dès le départ, les nations, précisément, n'ont plus été perçues que comme des principes funestes d'antagonisme, et donc on s'est promis de les dépasser. Donc c'est là que je crois que nous avons véritablement besoin de faire retour vers la souveraineté, de rendre ces titres de noblesse à la nation, aux singularités nationales, parce que je crois vraiment que les peuples n'ont plus envie de cette uniformisation. Et je le redis, de retrouver aussi la matière, le concret des choses, justement la terre, le terroir, et ne plus être dans toutes ces abstractions dont nous vivons depuis trop de décennies.
Il faut quand même se méfier de...
Il faut se méfier du terroir. Ouais,
non, mais le fait que la terre ne ment pas, ça...
Mais vous n'oseriez jamais dire cela en lisant L'Enracinement de Simone Veil.
Bien sûr que non, je suis absolument d'accord.
Mais dès qu'on parle d'enracinement, c'est à Barrès et à Maurras que l'on pense.
Non, est-ce que vous avez indiqué sur le fait qu'on s'inscrit dans une histoire, c'est tout à fait juste. Ce que je crois simplement, c'est que en réalité, les nations n'ont jamais disparu et il n'y a jamais eu de projet de les dissoudre. Et que donc aujourd'hui, ces débats, d'une certaine manière, sont derrière nous. La chose importante, c'est comment est-ce qu'on règle à nouveau, parce qu'il y a effectivement une vraie redistribution à faire entre
Regardez quand même
et c'est pour ça que le terme de souveraineté européenne, je pense, est trompeur. On doit parler de puissance européenne pour pouvoir discuter avec les empires, et la souveraineté, elle reste nationale.
Je vois quand même difficilement comment la France peut avoir une continuité quand on ne transmet plus son histoire. Or, vous le savez, c'était l'objet en partie de mon crépuscule des idoles progressistes. Depuis les années 70, l'éducation nationale ne s'est plus donnée pour mission au nom justement de notre liberté.
Je suis totalement d'accord avec vous, mais l'Europe donc... n'a rien à voir là-dedans.
Ah, mais ça, mais non, non, non. Ah, non, mais attendez, je n'ai pas incriminé que l'Europe. Justement, j'incrimine le progressisme et cette idée d'un individu qui sera d'autant plus libre qu'il sera délié de son héritage. Bien évidemment, vous pouvez lire mon livre, il n'y a pas une seule allusion à l'Europe.
Donc vous êtes effectivement hostile au progressisme. Je voudrais juste poser une dernière question très rapide parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, Nicolas Bavard, à propos de la Chine. Vous décrivez Xi Jinping comme quelqu'un qui, en quelque sorte, prône un retour maoïsme et vous dites qu'il y a un horizon aujourd'hui de domination chinoise qui est 2049. Pourquoi ?
Ben, c'est pas moi qui le dis, c'est Xi Jinping, le 19e congrès du Parti communiste. Maintenant, la Chine avance à visage découvert. Xi Jinping a très clairement dit que l'objectif pour la Chine, c'était d'avoir le leadership mondial en 2049.
Qui est l'anniversaire de la création 1949 de la République populaire de Chine, c'est ça ?
Le centenaire de la création de la... Et par ailleurs, tous ceux qui regardent la Chine aujourd'hui constatent que le Parti communiste est très fortement de retour. Donc, sur le plan idéologique, on a une pensée Xi. Le Parti communiste est de retour dans les universités, dans les entreprises, dans les centres de recherche. Il y a un contrôle extrêmement fort idéologique. Et l'épidémie de coronavirus a été un formidable facteur d'accélération du totalitarisme chinois, puisque maintenant, on a de la surveillance de la population renforcée par l'intelligence artificielle, par les drones même, qui permettent de et on croise les données de santé et les données de déplacement de la population. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, cette espèce de cyber-totalitarisme a vraiment de quoi inquiéter.
Et donc, face au populisme, la démocratie est fragile.
Jungle you like an anaconda. Just the way you are, make it much better. The Indians run up on the mind center.
I said I know how to make your love come down.
Now this is Chinese lands and the answer. Think hard and the thing is as I am. The reason what it is the number one. Huh.
Babe,
Ce n'est pas de la musique jamaïcaine, contrairement aux apparences, c'est de la musique anglaise. De son vrai nom, Mick Pelanconi, Prince Fatty est un DJ et producteur anglais imprégné de reggae. Et dans ce morceau, il présente la chanteuse Schnisse, Take Me As I Am, prends-moi tel que je suis, une programmation Mexico relaxée, ou plutôt Brexito relaxée, je vais y arriver, de Muriel Pérez.
Le monde d'après l'été. Christophe Bourseiller sur France Inter.
Alors Bérénice Levé, Nicolas Bavré, je vous ai offert de profiter de l'émission pour nous parler de votre coup de cœur, c'est quand même l'été, de votre coup de cœur le plus récent, un livre, un film, une pièce, une exposition, c'est vous qui décidez. Alors Nicolas Bavré, vous, ce qui vous a fait plaisir, c'est le livre « De Gaulle, une certaine idée de la France » de Julian Jackson, qui est paru au Seuil. Pourquoi donc ?
Albion est toujours surprenante, vous l'avez dit, c'est l'année du Brexit, et en ce moment, et pourtant, c'est un Anglais qui a écrit la plus belle biographie du général de Gaulle. Julian Jackson est donc un spécialiste d'histoire française. Il enseigne à la Queen Mary University of London. Et c'est une biographie extraordinaire d'intelligence, de finesse de compréhension, y compris sur les contradictions du général de Gaulle. Et notamment, il y a beaucoup de choses...
Il avait un côté populiste, d'ailleurs, à un moment donné, dans sa carrière politique.
On écoutait là encore Brassens, ce qu'on voit très bien avec le général de Gaulle, et ce qui nous ramène à notre discussion, c'est que pour lui, en fait, les idéologies ne représentent vraiment rien. Mmh. C'est la nation qui est vraiment le cœur, et ensuite la nation s'incarne dans l'État, et la colonne vertébrale de l'État, c'est son armée. Et Jackson revient beaucoup, d'ailleurs, sur les quatre livres que le général de Gaulle a écrit pendant l'entre-deux-guerres, et où on voit très bien que, plus qu'une conception de l'armée, il y a vraiment une conception de l'autorité et de la démocratie. Et avec d'ailleurs des choses qu'on peut trouver inattendues, mais qui seront très justes par la suite, c'est-à-dire que, y compris quand il réfléchit sur la défaite de l'Allemagne, de Gaulle insiste sur le fait que c'est parce que les militaires ont voulu occuper tout le pouvoir et que les civils n'occupaient plus la place qu'ils auraient dû. Donc, ce qui est fascinant, c'est que dès, alors qu'il n'est qu'un officier supérieur et pas encore général, il y a cette réflexion très profonde sur la relation du pouvoir civil et du pouvoir militaire dans une démocratie.
Alors Bérénice Levé, vous, c'est tout à fait différent votre coup de cœur, parce que vous avez mis votre masque et vous êtes allé voir une exposition au Musée d'Orsay à Paris. C'est James Tissot,
alors,
c'est ça ?
Voilà, l'exposition consacrée au peintre James Tissot, qui, en dépit de son nom, est un peintre français. Donc du 19e siècle. C'est une exposition, alors vous disiez après l'été et après le confinement justement, donc on peut aspirer à voir de nouveau des œuvres, et surtout, ça je tiens à le dire, c'est que c'est une exposition d'une extrême richesse, peut-être comme...
Peintre du 19e siècle, oui. On pourrait dire peintre de l'élégance féminine.
Voilà, hein. Et alors c'est un hymne aux femmes, en effet, aussi au jeu du désir et de l'amour, de ce qui se joue entre les hommes et les femmes. Et oui, je disais que c'est une exposition d'une extrême richesse, et comme on en reverra peut-être plus d'ici longtemps, parce que il y a énormément de prêts venus de l'étranger, parce que finalement dans nos collections nous n'avons pas tant d'œuvres que cela, et donc c'est une œuvre effectivement foisonnante d'un univers extrêmement riche, donc on est comme invité à poursuivre les histoires que chaque toile commence à raconter.
Alors moi, mon coup de cœur, j'ai aussi un petit coup de cœur, c'est un dictateur, écoutez-le.
Der Wiener Schnitzel mit der Lagerwirten und der Sauerkraut. Ey, der Filuten sagt der Filerten. Ein Tomenia bis ein Straff. Und der Blitzen sagt der Klütz. Ey, ich leih noch Straff mit der Ach.
Voilà, vous l'avez compris, mon coup de cœur personnel, c'est le coffret Le Dictateur, The Great Dictator de Charlie Chaplin. C'est sorti le 10 juillet chez Pia. C'est un beau disque 33 tours où il y a non seulement la bande originale du film, la musique du film, mais aussi la bande-son du film. Donc les scènes principales du film, dont c'est ce moment extraordinaire où Charlie Chaplin, évidemment, se moquait d'Hitler en faisant ce discours extraordinaire qui dure beaucoup plus longtemps. Je vous recommande ce discours assez extraordinaire du dictateur. Et évidemment, on est dans notre sujet, parce que vous voyez bien que le populisme s'incarne dans une figure charismatique, et qu'au fond, Hitler était peut-être une sorte de pré-populiste à une autre époque, bien sûr qu'aujourd'hui. On espère qu'on n'ira pas aussi loin qu'avec cette horrible dictature qu'on a vécue au XXe siècle. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a quelque chose de très inquiétant dans cette dérive populiste que nous vivons maintenant. Eh bien, merci beaucoup, Bérénice Levé et Nicolas Bavret, d'être venus débattre sur notre futur proche. Alors, Bérénice Levé, vous publiez en septembre un nouveau livre. Alors, ce livre va s'appeler « La France, pourquoi faire ?» À moins que vous ne changiez le titre, on verra, mais enfin, pour l'instant, c'est celui-là, aux éditions de l'Observatoire. Alors, Nicolas Bavret, alors c'est un hasard, mais c'est chez le même éditeur, les éditions de l'Observatoire, qu'est sorti votre livre « L'alerte démocratique sur donc le populisme » en janvier 2020, avec une phrase de Périclès qui dit « Se reposer ou être libre, il faut choisir ». On ne s'est pas reposé, nous, hein, on a essayé vraiment d'avancer. Alors écoutez-moi bien, c'est important maintenant, selon André Frossard. André Malraux a dit en 1968 « Le 21e siècle sera mystique ou il ne sera pas ». Alors d'un adjectif, comment qualifiez-vous à votre tour notre 21e siècle, Bérénice Levé?
J'espère qu'il sera enraciné. Pour être cohérente avec tout ce que je défends.
Nicolas Bavret.
Moi, je crois qu'il sera machiavélien et qu'après les rêves sur la démocratie de marché, eh bien, nous aurons un siècle placé sous le signe de la politique qui se décline en État, en frontières, en puissance et en violence.
Bérénice Levé, Nicolas Bavret, merci. Je vous retrouve samedi prochain à midi dans Le Monde d'après l'été. En compagnie de Marion Van Rentergem et Christian Saint-Etienne, nous essaierons de répondre à la question « L'Europe, on n'y arrivera jamais ?» L'émission a été réalisée par Étienne Bertin, avec à la technique aujourd'hui Philippe Duclos. Et notre assistant de production est bien évidemment le grand Saad Merzak. Au revoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.